Et enfin, après Marguerite et Eugénie, place à Sylvie, le nouveau rôle de Virginie Efira dans Rien à perdre de Delphine Deloget, dont va nous parler Eva, qui s'est rendue au Comédia pour la projection presse et la conférence de presse qui avait lieu en présence de la réalisatrice et du comédien Mathieu Demy.
Alors, Rien à perdre, réalisé par Christine Deloget, c'est un film qui a été sélectionné à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Il met en scène l'histoire d'une famille à Brest, celle de Sylvie et de ses deux fils, Gigi et Sofiane. Une famille, un point de bascule. Sofiane, le cadet, se brûle alors qu'il est seul à la maison et que sa mère travaille. Après une courte visite aux urgences, les services sociaux de l'aide à l'enfance qui ont été alertés débarquent et l'emmènent. S'ensuit alors le combat de Sylvie, sa mère qui tente de le récupérer, se battant contre vents et marées, ou plutôt contre le système judiciaire français et ses règles inflexibles. Donc c'est un film qui commence et se finit sur des frites. Ce sont de simples détails, semble-t-il, mais qui soulignent quand même tout un parti pris du film qui se veut réaliste. Ce drame est un premier long-métrage de la réalisatrice Delphine Deloget, qui était auparavant documentariste. Et donc forcément, la réalité crue capturée par le genre documentaire se retrouve parfois ici, mais elle est confrontée en même temps à un univers de fiction.
Un abord de fiction, on est clairement dans une fiction, tout est créé, et où le documentaire peut rentrer un peu en force et le confronter sans trop choquer à des endroits.
C'est donc un drame réaliste et touchant qui n'en fait pas trop, qui ne verse pas dans le larmoyant ou le pathétique, qui montre la souffrance et le combat avec justesse, parfois humour, toujours avec sincérité. Il nous emmène dans l'intimité de cette famille brestoise d'aujourd'hui avec des bruits d'ustensiles de cuisine qui tintent, des spaghettis bolognaises, des exercices de trompette répétés par son fils musicien. Alors, il aurait été tentant de dépeindre de façon critique et complètement négative un système judiciaire qui commet des erreurs et entraîne inutilement des familles dans des situations douloureuses. Pourtant, ça aurait été trop facile et incorrect. Alors, bien sûr, dans un sens, ce film condamne un système judiciaire parfois mal adapté. Il en montre les failles, les absurdités dans certaines situations. Des bruits de talons qui martèlent le sol, les pas de la juge qui semble annoncer la sentence qui va être posée, sentence irréductible. Sylvie ne pourra pas récupérer son enfant, du moins pas dans l'immédiat. Et ces bruits de talons martèlent l'écoulement du temps qui s'étirera de plus en plus, en même temps que Sylvie verra son enfant être placé pour un temps indéfini. Le côté implacable de cette machine administrative ne cesse de nous donner des coups. Les personnages et les spectateurs et spectatrices en même temps se heurtent, face à l'effondrement d'une famille et à l'incompréhension, à une froideur et à une intransigeance inflexible. Alors les représentants de l'État et de l'aide sociale à l'enfance brandissent des règles, toujours des règles, et des formules toutes faites qui sonnent et qui tombent comme des sentences et des vides face à l'émotion et à la douleur d'une mère à qui l'enfant est enlevé. Sans convocation, vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous. L'heure, c'est l'heure, il y a des règles. Non, vous n'avez pas le droit d'aller dehors. Donc, d'un côté, les verdicts eux-mêmes qui tombent dans le silence, et de l'autre, une mère qui se débat et qui crie en répétant comme une litanie qu'elle ne veut voir son fils, et qui en même temps nous montre que la parole, ça se prend. Et pour être juste dans son propos, la réalisatrice a appelé des associations, un juge, a eu des entretiens téléphoniques avec des familles, des professionnels de l'aide à l'enfance, qui ont inspiré de nombreuses scènes. Elle avait vraiment envie de décortiquer cette machine infernale parce qu'elle montre qu'une fois lancée, elle est compliquée à arrêter. Le système de l'aide à l'enfance est assez opaque parce que ça fonctionne par département, c'est pas une institution de l'État. Donc c'est pas partout pareil, il y a des manques de moyens, de formation, de financement, il y a beaucoup d'arrêts de travail, de turnover. Donc ce sont des personnes qui sont confrontées quotidiennement à la violence de certaines situations et qui appliquent des procédures et sont saisies dans un système de justice où elles ne prennent pas vraiment de décision. Donc c'est une machine qui, une fois lancée, n'est pas facile à arrêter et la réalisatrice a aussi voulu montrer cela. Pourtant, tout n'est pas noir et c'est ce qui fait vraiment la subtilité du film, qui souligne également combien cette aide sociale à l'enfance peut être utile, combien elle cherche avant tout à protéger les enfants et songe en premier lieu à leur bien-être. Il y a par exemple cette phrase d'un voisin « Parfois c'est bien un foyer plutôt que de se faire taper dessus ». Donc des voix multiples s'élèvent pour offrir un point de vue plus nuancé sur ce système judiciaire. Madame Henri par exemple, c'est un personnage ambivalent de l'assistante sociale qui est à la fois profondément agaçant mais également sincère dans son souci de protection des enfants. D'ailleurs le comédien Mathieu Demy qui incarne le frère aîné de Sylvie parle justement de ce personnage.
La phrase Madame Henri... Quand elle dit à un moment donné, Mais enfin, mettez-vous à ma place, nous on ne sait pas ce que vous faites en fait, on ne vous connaît pas.
Oui.
Et puis, si ça se trouve, votre gosse il est en danger. Mais vu de ma fenêtre, on ne peut pas savoir s'il n'est pas en danger, votre gosse. Et tout d'un coup, on se dit, mais oui, comment ne pas intervenir? Comment ne pas avoir ce doute quand on est dans cette position-là et que la mission, c'est d'essayer justement de prévenir des drames comme il y en a qui sont décrits dans le film, quoi.
Pour reprendre les propos de Delphine Deloger, elle le dit elle-même que c'est un film sur la peur aussi. C'est un film sur la peur de passer à côté d'un cas terrible. Donc la force de ce drame est de pointer ces zones grises, ces failles du système dont les solutions proposées semblent engendrer d'autres problèmes dans un cercle vicieux où tout le monde est finalement touché. Et du côté des personnages, ils sont tous construits avec finesse et intelligence et ne correspondent pas à des types figés. Par exemple, la mère courage ou toxique, le frère boulé ou qui a tout réussi, l'enfant rebelle. Notamment, Delphine Deloger fait de Sylvie la mère une femme complexe qui ne ressemble pas à un cliché, ne semble pas cocher de case. Elle est incarnée avec beaucoup de justesse par Virginie Efira. Alors elle pourrait rentrer dans plusieurs catégories, ou plutôt dans aucune véritablement. Ni violente, ni toxique, pas mal rebelle, dépassée mais qui cherche à lutter, toujours aimante, soucieuse, compréhensive et impliquée, presque résignée, courageuse mais dont la vaillance semble parfois prête à vaciller. La réalisatrice déclare qu'elle ne souhaitait pas être trop complaisante avec ce personnage.
Je voulais scénariser en fonction des sentiments qu'allait traverser cette femme. Donc le déni, la colère, j'avais presque aussi un peu envie de montrer comment petit à petit quelqu'un est poussé vers la sortie. Je me dis qu'il faut que j'arrive à en tirer un point de vue. Ce n'est pas la réalité, mais au moins un principe de justesse. J'avais envie d'être qu'à un moment donné, elle nous dérange aussi un peu. Et ça, c'est intéressant, les personnages qui, d'un seul coup, sont un peu dérangeantes, posent des questions, mais... Et nous renvoie, j'avais envie qu'elle soit un peu bigger than life, qu'elle nous renvoie un truc, enfin voilà, que ça bouillonne en fait. Voilà, et j'avais quand même envie d'aller à la frontière, puisque c'est une femme qui va à la frontière, je trouve que ça questionne la norme, plein de choses. Oui, moi j'ai un désir de personnage, j'ai pas un désir de. Le sujet pour moi, je peux pas passer à côté par mon parcours. Et il m'intéresse et il me questionne, mais il est intéressant parce qu'il vient questionner cette famille et cette femme dont je vais pouvoir forcément la mettre dans des situations inconfortables, sonder un peu qui elle est et faire un portrait d'elle, donc dans sa complexité, l'ambiguïté, de savoir finalement, tantôt j'avais envie qu'on soit avec elle, totalement, et en même temps qu'il y ait certains moments où la caméra prend du recul et on se dit... Mais qu'est-ce qu'on ferait si on était son frère? Qu'est-ce qu'on ferait si on était ses amis? Et qu'est-ce qu'on ferait si on était l'institution face à elle? Et que ça résonne aussi en nous sur qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est en train de vaciller comme ça.
En ce qui concerne les personnages secondaires, ils sont également singuliers, attachants et authentiques. Entre un fils aîné, adolescent qui se cherche, un frère cadet un peu paumé et en contradiction avec le système... Un frère aîné qui paraît avoir réussi et dont la vie semble bien rangée, mais qui nous montre qu'une vie lisse et linéaire n'égale pas l'épanouissement. On peut écouter d'ailleurs comment la réalisatrice parle de ce personnage.
Et je trouve qu'au final, c'est un personnage qu'on pourrait penser lâche et que je trouve le plus courageux. Parce que c'est celui finalement qui met les choses en mouvement, c'est celui aussi qui craint pour lui, c'est lui qui a le plus à perdre finalement. C'est pas un personnage qui vient incarner la morale, il vient incarner avec ses propres fragilités, à un moment donné, comment on peut gérer quelqu'un qui est en train de vaciller, lui, à la position où il est.
Finalement, c'est un film qui fait aussi le portrait en creux d'un quotidien dans une région, de la complexité des liens familiaux avec leurs problèmes et les liens qui les unissent, une certaine effervescence dans leur manière d'être et de se comporter, comme le déclarent les réalisatrices. Delphine Deloger souhaitait ainsi représenter tout le monde dans leur choix de vie, interroger le fait de faire partie de la société et des concessions qu'il faut parfois faire. Ce film met alors en lumière, en employant l'humour et en garantissant une touche d'espoir, l'amour familial en proie à l'explosion, la faillibilité des institutions et des êtres humains, mais il en montre aussi les forces. C'est finalement un film qui pose toute une série de questions. Que faire quand ce qui constituait notre vie semble exploser ? Comment une famille continue de vivre et de fonctionner après un drame? Quelle est la meilleure solution pour l'enfant entre sa mère et un placement institutionnel? Comment cette mère pourrait agir, se rebeller contre les décisions ou accepter et se soumettre aux mesures judiciaires? Et Delphine Deloger ne choisit pas un camp, à part celui peut-être de la liberté de se réinventer.
Je voulais pas non plus que ce soit un peu une étude de cas pour qu'on soit tout le monde, ça contente tout le monde. C'est pas le ministère public qui allait écrire non plus le scénario.
Oui.
Donc je voulais pas que la morale me rattrape ou l'éthique. Ah, ce serait mieux quand même que ce soit comme ça, parce que ça arrangerait tout le monde un peu moralement et on serait plus satisfait d'un point de vue sociétal. Encore une fois, au cinéma, moi, ce que j'ai envie, c'est que ma morale, que mon éthique, ce que je vais garder en documentaire, là, je m'affranchisse et du côté de Sylvie et du côté des services sociaux. Donc, moi, je raconte comment, au fond, comment on doit se réinventer dans la vie. J'avais besoin d'un élan de liberté. C'est un film quand même qui questionne la norme, peut-être une société qui devient de plus en plus rigide. Il y a toujours une forme de résistance, de résilience, d'humour qui arrive dans les pires situations.
Merci beaucoup Eva pour cette très très belle chronique et effectivement, pour un très beau film qui semble donner à Virginie Efira un nouveau personnage de mère assez complexe au-delà des stéréotypes. J'ai vu effectivement pas plus tard que tout à l'heure. Un article sur ce film qui disait un nouveau portrait de mère courage précisément, et j'ai l'impression que ça va quand même au-delà de ces stéréotypes là visiblement.
Oui, c'est ça, c'est la réalisatrice ne voulait pas que ce personnage de Sylvie rentre dans une case vraiment de mère courage par exemple. Elle voulait que ce soit plus que ça, qu'en même temps elle incarne oui cette mère courageuse mais aussi cette femme rebelle et par exemple du côté de sa vie amoureuse, justement, elle ne voulait pas mettre en scène d'amoureux ou d'amoureuse à ce personnage. Et elle dit justement qu'elle voulait plutôt la représenter dans ses rapports avec sa famille, avec ses amis, avec ses enfants. Et finalement, parce que c'est assez banal cette situation de mère seule avec ses enfants. Et donc, elle voulait vraiment montrer cette situation ordinaire. Et enfin, par exemple, il y a cette scène dans le film où il y a Sylvie avec un de ses frères qui discute à table en soirée, et son frère lui dit « Mais avec tous tes problèmes, tu ne voudrais pas te trouver quelqu'un ?» Et vraiment, et le personnage de Sylvie qui l'envoie balader. Donc vraiment, elle voulait représenter le personnage de Sylvie hors de tout rapport amoureux.
Et c'est ça qui doit être vraiment
très, vraiment
très beau,
intéressant,
je pense.
Ouais.
Rien à perdre, ça sort aujourd'hui sur
Et vous n'aurez rien à perdre à aller le voir au cinéma.
tout est dit. Conclure l'émission, vos critiques vous donneront leurs conseils et on commence avec Nathan.
Oui, alors je pense tout simplement recycler un conseil que j'avais donné dans l'émission maudite sur Une année difficile. Et c'était plus cohérent d'en parler ce jour-là puisque il y avait un lien plus évident, parce que là le lien avec les ortolans d'Audin Bouffant est moins clair, mais bref, c'est pas grave. Je voulais conseiller Sentinelle de Hugo Benamozig et David Caviglioli, qui était déjà derrière le scénario du Flambeau. Et donc c'est un film qui est disponible sur Prime Video. C'est donc la grande comédie de cette année avec Jonathan Cohen, qui est bien plus mise à son avantage que dans Une année difficile. C'est un film qui est très très drôle, quelque part entre La Cité de la Peur, Miami Vice et The Office. Et c'est un film qui, je trouve, a tout de la comédie générationnelle culte dans la lignée de La Cité de la Peur ou The Office par exemple, et qui pour autant passe assez inaperçu, ce qui est bien dommage parce que c'est pourtant un film hilarant, porté par le duo Raphaël Quenard et Jonathan Cohen, qui a d'ailleurs poussé le gag et le happening jusqu'à faire toute la promo du film dans son personnage, et a interprété son tube « Est-ce que tu regrettes ?» sur tous les plateaux télé où il passait, ce qui est très drôle. Et leur duo donc fonctionne hyper bien, ils sont très drôles, et le film est vraiment complètement con, très absurde, mais en même temps assez prenant, avec des grosses scènes où moi j'étais en fou rire complet. Donc voilà, si vous voulez rire, regardez Sentinelle, moi j'ai vraiment passé un excellent moment. Et je trouve que, bah voilà, je disais pendant l'émission sur Une année difficile que Jonathan Cohen était un acteur décidément très drôle, mais qui choisissait mal ses films. Bah celui-là est loin d'être un mauvais choix et aussi raté qu'Une année difficile. Hop, j'en profite pour la petite balle perdue. Donc voilà, c'était mon conseil.
Merci beaucoup Nathan. Pour ce conseil et puis pour essayer de ressusciter un petit peu nos débats sur Une année difficile qui reste quelque part, j'en suis sûr, dans les fichiers de l'ordinateur du studio. On passe au conseil d'Eva.
Alors pour ma part, je vous conseillerais d'aller voir La Vénus d'Argent qui sort en salle aujourd'hui même par Elena Kloss avec Claire Pommet alias Pomme la chanteuse. Alors, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il est intéressant parce que donc c'est l'histoire de Jeanne, une jeune fille de 24 ans qui veut réussir sa vie dans le monde de la finance. Donc, c'est un film qui semble parler de déterminisme social puisque le personnage de Jeanne est une transfuge de classe. Elle a grandi dans une caserne de banlieue avec un père pompier, un père gendarme, pardon. Et donc, c'est une représentation à la fois de cette difficulté de changer de classe et aussi de cette difficulté en tant que femme de se faire une place dans un monde d'hommes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes potentiellement dans ce film. Alors je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il peut être intéressant à aller voir.
Merci beaucoup Eva. Et enfin, mon conseil à moi, c'est une semaine tout juste après la mort de Michel Simon, légendaire critique de cinéma, entre autres à l'émission qui nous a tout copié, Le Masque et la Plume, de découvrir son œuvre critique, ses monographies, ses entretiens internationalement reconnus sur ou avec le Scorsese, Lozay ou encore et surtout Kubrick. Une vie de cinéma qui a beaucoup fait pour la critique cinématographique française et en cela pour le comptoir du cinéma. Voilà, c'est moi-même, je ne connais que très très peu de son œuvre et je vous enjoins aussi à commencer à la découvrir. Tous ces conseils très variés, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les deux et à Lucie pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, comme d'habitude directement disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast pour parler de Et la fête continue. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Vive le cinéma et vive Transistor.